liens terriennes et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Espace, frontière de l'infini vers laquelle je voyage. Ma mission, explorer la littérature, le cinéma et la télévision, découvrir les grands thèmes du fantastique et de la science-fiction et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Joignez-vous à moi et partez explorer de nouvelles planètes, des mondes étranges, rencontrer des créatures merveilleuses ou effrayantes, mais surtout, restez prudents, car ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Sainte-Afrique pour la saison 2 de l'Heure Fantastique, l'émission dédiée au fantastique sous toutes ses formes. Alors voilà ce qui va se passer. On commencera par un petit tour à travers les œuvres, des séries cette fois-ci, et même de la très très bonne série. On continuera avec l'interview du fan. Ce mois-ci, c'est Marie que nous accueillerons et qui parlera de sa passion pour la SF en général, et pour une série en particulier, en lien avec notre thème évidemment. Après ça, on retrouve l'inégalable rubrique du film De Pucelle, où l'on évoquera une daubasse pour Jouvencelle, parce qu'on est aussi là pour se moquer, un peu. Enfin, nous terminerons cette émission par les traditionnels conseils, prodigués aujourd'hui par de véritables professionnels. Lors des émissions précédentes, nous avons cherché le Graal aux côtés du valeureux roi Arthur, échappé aux griffes des dinosaures, et nous nous sommes même aventurés dans la matrice. Mais tout cela n'est rien face au thème d'aujourd'hui. Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont courageux, ils sauvent le monde tous les jours avant le petit déjeuner, et il leur arrive d'enfiler leurs slips par-dessus leurs collants. Ce sont les super-héros. Ce thème, c'est un peu le thème phare du fantastique et de la science-fiction réunis. Depuis les demi-dieux de l'Antiquité jusqu'aux mutants des comics américaines, les super-héros fournissent un panthéon riche et varié et ont donné naissance à des œuvres nombreuses et souvent cultes. Il serait bien sûr impossible d'en faire la liste exhaustive. Si ce thème vous intéresse, allez voir l'excellent documentaire d'Arte sur les super-héros et l'histoire américaine. Pour cette émission, j'ai choisi deux références, deux œuvres parmi toutes. J'aurais pu parler de Superman, un basique, ou encore de Batman, un grand classique, ou même de Wonder Woman pour faire ma féministe. Mais non, puisque je ne pouvais pas parler de tous les super-héros et qu'il me fallait n'en prendre que quelques-uns, j'ai choisi les inattendus. Ceux qui tranchent avec l'image lisse et caricaturale du super-héros aux abdos d'acier et au brushing parfait. Les super-héros malgré eux, un peu perdus parfois, un peu à côté de la plaque de temps en temps, mais terriblement attachant. Allez, avant de nous lancer, je dédicace cette émission à Laura, Fred, Karine et Linda, qui sont de fidèles auditeurs et surtout des héros copains trop chouettos. Et l'on commence avec une petite série britannique, créée par Howard Overman et diffusée pour la première fois outre-Manche en 2009, Misfit. Au départ, les personnages principaux sont réunis dans un centre communautaire de banlieue afin de purger leur tige, traduisez « travaux d'intérêt général ». Car oui, nos héros sont des paumés, des petits délinquants. L'un s'est fait prendre en train d'uriner dans la boîte aux lettres d'un voisin, un autre avec de la drogue sur lui, une s'est battue, une autre conduisait sans permis et un dernier a piqué des bonbons. Ils ont tous à peu près la vingtaine, n'ont pas de diplôme, pas de boulot et sont franchement mal polis. On est loin du gentil Peter Parker. Et suite à un orage un peu spécial, cette joyeuse bande de losers se retrouve dotée de super-pouvoirs. Comme super-héros inattendus, c'est pas mal, vous en conviendrez. Et bien entendu, ils ne vont pas vraiment chercher à utiliser leurs pouvoirs pour faire régner l'ordre et la justice. Parce que c'est pas trop leur truc, ça, l'ordre et la justice. Une de mes scènes préférées se situe à la fin de la saison 1. Une jeune fille également dotée d'un super-pouvoir, celui de la persuasion, a pris le contrôle de l'esprit de centaines de jeunes, dont la plupart de nos héros, afin de les enrôler dans une espèce de milice du bon goût et de la virginité. Sous son emprise, les jeunes paumés échangent leurs survêtes contre des pantalons de toile et des jupes plissées, jettent leurs boulettes de shit et leurs vibromasseurs à la poubelle, et envisagent de s'inscrire à l'université. C'en est trop pour Nathan, qui tente de mettre fin à cette situation insupportable.
Elle est en train de vous faire croire que c'est comme ça qu'il faut être! Bah c'est pas comme ça! On est jeunes! On est censé passer notre temps à boire! On est censé se conduire mal et on est censé baiser comme des malades! On est là pour faire la fête! C'est ça, être jeune! Il y en a quelques-uns qui vont faire une overdose ou qui vont péter les plombs! Mais Charles Darwin a dit, on ne fait pas une omelette sans casser quelques œufs! Et c'est de ça qu'il s'agit au bout du compte! Casser des œufs! Et casser des œufs, ça veut dire se déchirer la tronche avec un cocktail de dur! Si vous pouviez seulement vous voir en ce moment, ça me fend le cœur. Vous portez des cardigans. On était les rois du monde. On a foutu notre merde plus fort et bien mieux que toutes les générations qui nous ont précédés. Nous étions beaux, tellement beaux. On est des paumés. Je suis un paumé. Et j'ai l'intention de rester un paumé jusqu'à 29 ou 30 ans, peut-être même un peu au-delà si j'ai envie. Et je préfère baiser ma propre mère plutôt que de laisser cette fille, ou bien qui que ce soit, me priver de ma liberté.
Pour ceux qui n'auraient jamais vu la série, je pense que vous avez un peu mieux saisi l'ambiance après cet émouvant discours. C'est tout ce que j'aime dans les séries anglaises. Un humour un peu décalé, du second degré, et l'absence de morale à deux balles à la fin de l'épisode. Contrairement à beaucoup de séries américaines, qui tentent de nous faire verser une petite larme devant des scènes poignantes et vibrantes d'émotions, et de nous faire passer mine de rien une leçon, ce qui me donne toujours un peu l'impression d'être une gamine à qui on apprend à ne pas taper son petit frère. Misfit est donc une bonne, une très bonne série, qui manie l'humour anglais et le trash avec dextérité. J'ai aimé le personnage de Nathan, que l'on vient d'entendre, pour son caractère insupportable, égocentrique et mal poli. J'ai aimé le personnage de Simon pour son petit côté psychopathe. J'ai aimé cette bande de tarés devenus des super-héros qui commencent simplement par buter leur éduxpé à plusieurs reprises. J'ai aimé les deux premières saisons. J'ai continué de regarder la troisième malgré la regrettable absence de Nathan. J'ai même persévéré avec la quatrième saison malgré la disparition des personnages d'Alisha, de Simon et de Kelly. Mais quand l'hécatombe s'est poursuivie et qu'il n'est plus resté aucun des personnages originaux, j'avoue, j'ai laissé tomber. Une saison 5 est bien sortie, mais je n'ai pas été la voir. Ce n'était plus pareil. La magie avait cessé de s'exercer. Ce n'est pas le tout de sortir un scénar délirant comme on les aime. Il faut savoir fidéliser ses acteurs. Quant au remake américain, actuellement en préparation, je ne suis pas sûre qu'il parvienne à retranscrire cette ambiance à la fois trash et décalée, ni qu'il récolte autant de nominations et de prix que l'original, très largement récompensé, tant au niveau de la réalisation que des acteurs, acteurs qui, comme je l'ai dit, ont plié bagage au bout de quelques saisons. Pour les nostalgiques, on peut toujours retrouver Aiwan Reon, qui jouait Simon, dans le personnage de Ramsay Snow de Game of Thrones. Allez, avant de passer à la suite, on s'écoute un petit bout de la BO de la série, réalisée par Vince Pop et récompensée en 2011 au BAFTA TV Award.
We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Radio Saint-Afrique pour une heure fantastique, super-héroïque. Quand on pense super-héros, en fait, ce qu'on imagine plus, c'est une silhouette sur un toit, en haut d'un building, la nuit. Peut-être l'ombre d'une cape qui se découpe dans les lumières de la ville et un regard tourné vers l'horizon, prêt à détecter le moindre crime dans la plus petite ruelle. En fait, le super-héros est un citadin. Les plus inattendus, et parlons franchement mes préférés, nous allons donc les retrouver à la campagne, avec la série française HéroCorp, qui met en scène des super-héros ruraux avec beaucoup d'humour. Arrivé à ce stade de l'émission, mes auditeurs se divisent en deux catégories. Ceux qui ne connaissent pas HéroCorp et ceux qui en sont fans. Pour les premiers, je dois être honnête, ce qui va suivre ne sera pas objectif. Je l'avoue, je suis une hérocopine. Hérocopine, féminin de hérocopain qui désigne un fan de la série HéroCorp. À l'origine, le hérocopain est une personne comme une autre qui se retrouve un jour face à un épisode de HéroCorp. Il trouve ça sympathique. Alors il en regarde un deuxième, puis un troisième, et bon, vous connaissez la suite. Mais ça, ça n'a rien de nouveau. Toutes les séries ont ce petit côté addictif. La différence avec HéroCorp, c'est qu'on ne veut pas seulement connaître la suite. On rentre dans un univers et on n'a plus du tout envie d'en sortir. Vous reconnaîtrez donc le héros copain à son vocabulaire et ses références empruntées au dialogue de la série. Alors oui, si vous croisez un héros copain, ça peut donner des trucs comme ça.
John, t'es mon meilleur ami!
Petit chat, petite bête à poil.
Dis-lui un mensonge. Il fait beau aujourd'hui. Un mensonge, je te dis. Mais je suis désolée, il y a des nuages. Hein.
Ah mais j'en ai marre, on est toujours à la troisième roue du carrosse.
Pilage !
Et le fan d'HéroCorp, lui, il comprend. Bien sûr, il connaît les répliques par cœur. Et si vous dites « Captain Shampoing », il y a des chances qu'il vous réponde « Classe 136 ». Mais surtout, surtout, le héros copain est tenace. Il ne lâche jamais, jamais, jamais. Ainsi, après la saison 2, les héros copains, qui forment une communauté très active sur Internet, mais aussi en vrai, ont tout naturellement voulu une saison 3. Ça n'a pas été facile, ça a mis du temps. Mais les héros copains n'ont pas laissé tomber. HéroCorp est ainsi la première série française à avoir été sauvée par ses fans. Le héros copain n'aime pas HéroCorp, il vit HéroCorp. Oui, il est parfois un tout petit peu excessif, à l'image de certains personnages, et son vocabulaire peut parfois en pâtir, même si d'autres veillent au grain.
Eh ben en route, on a une région à protéger, ça devient urgent.
Oh non, merde, on peut pas dormir encore.
Oh non, fichtre, ne pourrions-nous pas nous délasser encore quelques durées supplémentaires?
Alors je n'ai peut-être pas fait les choses dans l'ordre, mais avant de présenter la série elle-même, il m'apparaissait vraiment important de parler de ses fans, pour leur rendre hommage, et pour que les non-initiés comprennent bien dans quoi ils mettent les pieds. À présent que vous êtes prévenus, on peut reprendre et aller retrouver des super-héros un peu inattendus dans un petit village en Lozère. C'est parti pour une présentation de HéroCorp. Hérocorp est donc une série française, créée et réalisée par Simon Astier, à partir d'une idée qu'il a eue avec son complice Alban Lenoir. La saison 1, sortie en 2008, se passe dans un petit village en Lozère. Les murs des maisons sont en pierre sèche et les toits en ardoise. Pas un building à l'horizon, on est à la campagne. John, le héros, joué par Simon Astier, débarque dans ce trou perdu, croyant venir assister aux funérailles de sa tante, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il va rapidement s'apercevoir que quelque chose cloche dans ce village très spécial. En effet, tous les habitants ou presque sont d'anciens super-héros. Seulement, le temps ayant un peu passé depuis les années glorieuses, leurs pouvoirs sont devenus un peu pourris et leurs costumes sentent la naphtaline.
Nous avons reçu une lettre anonyme qui nous informe que Burt ne mérite pas son rang de classe 80, que son pouvoir a encore diminué et qu'il néglige son hygiène corporelle. Ça, franchement, c'était pas obligé. Burt, s'il te plaît, tu me rejoins ?
C'est dégueulasse.
Burt, s'il te plaît. Steve ?
C'est du shampoing.
Burt Peirce, alias Acidman, classe 80, devient officiellement en ce jour Captain Shampoing, classe 136.
Pauvre Burt. Mais il n'est pas le seul à voir son pouvoir dégénérer et tous les super-héros du village ont un petit côté has-been. Avec l'arrivée de John, tout va changer. Oui, il va sauver le monde du plus grand super-vilain de toute l'histoire. Mais il va surtout redonner confiance aux villageois et essayer de faire d'eux, à nouveau, de véritables super-héros. Même si au début, c'était pas gagné.
Prêt ? Top !
Mais pourquoi c'est moi qui passe en premier ?
Non mais allez, fais pas ton cinéma, il y a du monde derrière.
Je suis brasier. Prends garde à la chaleur que je dégage avec mes mains. Tu n'en reviendras pas moins fort.
Ouais, alors on verra ton gimmick après, mais pas mal, pas mal. Allez, suivant.
Attention, je suis mental, non. Je suis mental, attention. Tu n'iras pas bien loin, car je peux t'en empêcher grâce à mon pouvoir de persuasion.
C'est mou, les mecs.
Prends garde à toi, je ne suis pas né de la dernière pluie. Frais comme un gardon, chaud comme une tornade, je suis... Tornado.
Ok. Suivant.
Non, attendez. C'est pas possible.
Mais quoi qui est pas possible?
Mais c'est ridicule, qu'en plus ça veut rien dire.
Ah, on n'est pas là pour juger, John.
Ouais, enfin, on est quand même censé améliorer les trucs. Je trouve pas que le brief soit respecté, là.
Moi, je trouve que dans l'énergie, ça passe.
Et pourquoi frais comme un gardon?
En fait, c'est en opposition avec chaud comme une tornade.
Ouais, non, mais ça veut rien dire.
Non, on a coupé. Attends.
Ah, pardon, je croyais avoir entendu mon top.
Et puis, on n'avait pas dit que c'était pas validé, Tornado?
Ah bah moi j'ai rien là-dessus hein.
Je vous jure que c'est mieux.
Bon allez, on continue.
Je vais vous faire froid dans le dos et vous ne resterez pas de marbre parce que je suis Captain Cold.
Ne vous fiez pas aux apparences, je suis Captain Transformation.
Ça c'est plus sobre hein, déjà.
Bon, à toi.
Je suis Bouclierman.
Et...
Et non, mais je le sens pas.
Non mais allez!
Je suis Bouclierman, vous me toucherez pas de sitôt.
Je suis Force Mustang, et je vais tous vous pourrir vos mères!
Force Mustang?
Ouais, ça pète, non?
Mais quel rapport?
Bah, je suis super fort.
Ouais, ça ouais.
Donc du coup, Force.
Mm-hmm.
Et Mustang, parce qu'un cheval, c'est super fort aussi.
Ah putain, mais faut aller le chercher quand même, hein.
Bon, attention, derrière! Top!
Et l'on n'oublie pas le super véhicule, une vieille déesse qui porte encore, détail subtil, la vignette 1982. Avec la saison 2, on a droit à une nouvelle ambiance et de nouveaux personnages. Fini la vie au village qui a été détruit suite à l'attaque d'un super vilain. Les villageois doivent retrouver un nouveau refuge et de nouveaux repères. L'histoire d'amour entre John et Jennifer, débutée à la saison 1, se complique un petit peu. Le statut de chef de John est remis en question, ce qui ne manque pas de susciter des vocations de meneur chez certains personnages.
Ce qu'on vous propose, c'est l'expérience d'une complémentarité, la complémentarité au service de l'expérience. Je comprends que vous vous demandiez ce qu'on fait là. Je comprends parce qu'on me l'a demandé d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, ce qu'on fait là, je vais vous le dire. On est en train de bâtir un futur proche.
Nous ne sommes pas plus que parfaits, mais nous honorerons nos impératifs. Notre passé n'est pas simple, il est composé, et notre futur le sera simple, comme le futur simple. Merci.
Ça le fait, le champ lexical de la conjugaison ou pas ?
Bon, au final, le programme politique de Stan et Bert n'ayant pas remporté les suffrages escomptés, l'un dans l'autre, John, aidé de Steve et toujours secondé par ses meilleurs copains Klaus et Doug, mène toujours la petite équipe, qui parvient à gagner le bunker, une base dans la montagne construite par HeroCorp, pour abriter les super-héros en cas d'attaque. Retranchés dans ce fort, qui sent un peu la poussière et les toiles d'araignée, les villageois voient arriver d'autres super-héros, venus eux aussi trouver un refuge suite à l'attaque de leur site. Qui dit nouveau super-héros, dit nouveau super-pouvoir. Et comme on est toujours dans HeroCorp, on reste dans l'originalité.
Et c'est quoi ton pouvoir ?
Je peux faire baisser la garde de n'importe quel adversaire.
Comment ?
En l'interloquant.
Comment ça ?
Bah je lui parle et quand je parle, c'est super interloquant.
C'est tout ?
Non, une fois qu'il est bien interloqué, il se prend un ballon de hand.
Un ballon de hand ? Qui sort d'où ?
De nulle part en particulier, c'est pas super défini.
C'est pas un peu n'importe quoi comme pouvoir ?
Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Je l'ai depuis toujours en fait.
Fais voir un peu pour essayer parce que j'arrive pas à me le...
Mais c'est un ballon là qui est un
quoi ? Ah ouais, la vache ! Ah ouais, ça surprend !
Tu vois ?
Ah, carrément ! C'est aussi parce que tu parles en vietnamien, non ? Ça ajoute pas mal au côté interloquant.
Non, ça n'a rien à voir.
Ton pouvoir, il marche aussi sur les vietnamiens ?
Oui, oui. À cause des tournures de phrases. C'est pas la langue, c'est les tournures de phrases qui interloquent.
C'est tout à fait déstabilisant, vous en conviendrez. Interloquant même, je dirais. Aïe ! Et avec HeroCorp, vous n'avez pas fini d'être interloqué. À la fin de la saison 2, on quitte nos super-héros sur un bateau à destination du Canada, vers le siège de l'agence de HeroCorp. Il a fallu attendre, attendre, espérer, désespérer et espérer encore, avant qu'enfin, en 2013, Simon Astier n'annonce l'heureuse nouvelle, HeroCorp revenait pour une saison 3. Le bateau a fait naufrage et les super-héros se retrouvent sur une île. Un petit clin d'œil à Lost en passant et l'histoire recommence. En fait d'île, oubliez les palmiers et le sable chaud, on se les gèle carrément et nos super-héros sortent les gros bonnets en laine. Pour cette nouvelle aventure, un nouveau QG, le château de Lille appartenant à Miss Moore, la secrétaire de HeroCorp, venue rejoindre la petite équipe et affronter avec elle de nouveaux périls. Car cette île a ceci en commun avec celle de Lost, qu'elle est peuplée de trucs chelous et assez effrayants. En l'occurrence, des bêtes, à mi-chemin entre le zombie et le loup-garou, qui sortent à la nuit tombée et attaquent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin, les dévorant ou les transformant par leurs morsures. Mais aussi une société secrète, sorte de secte adorant Hypnos, une créature maléfique qui semble avoir de sombres projets pour John. Afin de l'entraîner peu à peu du côté obscur, Hypnos et ses disciples tentent d'amener John à s'éloigner du groupe. Pour ce faire, ils utilisent leur pouvoir hypnotique et sèment la discorde parmi les super-héros.
Laisse-moi en cause, c'est pour les connards !
Laisse-moi en dire ! C'est pour les gros blancs que pas de physique comme toi !
Moi, j'ai pas de physique ! Moi, j'ai pas de physique ! Moi, j'ai pas de physique ! Moi, j'ai pas de physique ! Moi, j'ai pas de physique !
Répète-le encore une fois !
Moi, j'ai pas de physique ! les faire affûter.
J'ai une ossature très fine, c'est tout.
Mais bon, c'est même pas que t'es là tellement t'es sec.
Je peux être sec, mais pas les titres. Je les ai gagnés tous. J'ai rien sorti.
Voilà ce qui se passe quand Captain Sport Extrême et Jean-Michel se disputent. Violent, mais heureusement de courte durée. Même si le ton humoristique est toujours présent, cette troisième saison est à l'image de John, dont le personnage explore son côté sombre. John ne cesse de faire le même rêve. C'est la nuit, il marche dans la neige, se frotte les yeux, étalant le noir de son masque sur ses pommettes. Et il arrive devant un temple en ruine. Une silhouette lui tourne le dos, elle porte une cape noire et se trouve face à l'autel. John pose la main sur son épaule et... L'humour n'interdit pas un petit côté flippant, et Simon Astier nous le prouve bien dans cette saison 3. Quant à la saison 4, qui est actuellement en train d'être tournée dans les Charentes-Maritimes, nous devrions la découvrir sur France 4 avant la fin de l'année. Ce qui vous laisse le temps d'aller voir, ou revoir, ou revoir les saisons précédentes. Ah, c'était dur de résumer ainsi la série, en essayant à la fois de raconter l'histoire sans trop en dire de manière à laisser le plaisir du suspense à ceux qui ne l'auraient pas encore vu, tout en remémorant les meilleurs moments pour combler les fans. J'ai oublié plein de choses importantes. Des personnages super, des scènes géniales, des répliques terribles, mais il fallait bien faire un choix. Quant à la critique que je pourrais faire de HeroCorp, et dont je vous ai déjà prévenu qu'elle ne sera pas objective, je commencerai par dire que c'est une série à voir. Pas à voir comme ça en passant si vous avez du temps et que vous ne savez pas quoi en faire, non. À voir absolument. Impérativement, et tout autre adverbe en « ment » qui en impose. Carrément, oui, c'est bien carrément. Je le dis beaucoup plus depuis que je suis une hérocopine. HeroCorp, c'est des super-héros, de l'humour, des paysages magnifiques, du suspense, la musique fantastique d'Étienne Forger, des dialogues vraiment énormes, des scènes cultes, des personnages terriblement attachants, de l'émotion, des atmosphères et des cliffhangers de folie. Et je voudrais terminer cette rubrique en m'adressant directement à Simon Astier et à tous ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure de HeroCorp. De la même façon que l'on mesure la réussite d'entreprises comme Kleenex ou Bic au fait que le nom de leur produit leur ait échappé pour tomber dans le langage courant, je mesure votre réussite au fait que HeroCorp ne vous appartienne plus tout à fait. Vous avez créé un univers et les fans l'ont investi. Ils s'y sont installés et rien ne pourra plus les en déloger parce qu'ils y sont bien. Pour ça, bravo et merci. Et au cas où vous écoutiez l'émission, pour la saison 5, il y a des paysages vraiment chouettos dans l'Aveyron. Je dis ça comme ça. Allez, on reste encore dans l'univers de HeroCorp avec l'interview du fan. Ce mois-ci, c'est Marie, une hérocopine rencontrée sur Twitter, qui se dévoue.
Bonjour Marie et merci d'avoir répondu présente pour cette interview du fan. Peux-tu te présenter rapidement aux auditeurs ?
J'ai 29 ans et je suis fan de science-fiction et des univers fantastiques en général.
Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Comment es-tu entrée dans cet univers ? Quelle place tient-il dans ta vie ?
Je suis fan de science-fiction depuis toute petite. Ça a commencé avec Star Wars. Je regardais ces films quand j'étais vraiment toute petite, j'avais 6 ans. Et cet univers m'a plu. Puis mon père m'a fait regarder tous les Superman, Rencontre du Troisième Type, tous les films de ce genre-là. Cet univers, en fait, c'est devenu mon échappatoire. Comme je le dis souvent, c'est la carotte qui me fait avancer et progresser dans ma propre vie. c'est pas du tout incompatible avec la vie d'un adulte. La science-fiction, ça m'a aussi rendu fan par copinage du cinéma. Je suis devenue curieuse et j'ai voulu découvrir tout l'univers du cinéma, donc comment étaient faits les effets spéciaux, comment étaient faits les films. Et je suis aussi fan des super-héros et de la science-fiction, et je trouve qu'être geek, c'est défendre son côté enfantin et grandir avec. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est un point de vue. Ça veut pas forcément dire qu'on est renfermé et qu'on ne sort jamais, c'est même plutôt le contraire en fait.
D'accord, donc l'heure fantastique a pour thème ce mois-ci les super-héros. Et je crois que tu es une fan de la série HeroCorp dont nous avons parlé tout à l'heure. Peux-tu nous dire ce qui t'a plu dans cette série ?
Alors, je connaissais et appréciais Kaamelott depuis un bout de temps. Et j'étais fan des super-héros depuis longtemps. Ma petite sœur m'en a parlé parce qu'elle avait découvert lors d'une nuit HeroCorp sur France 4. Elle me l'a fait découvrir et au bout de 3 épisodes, j'étais devenue accro. J'ai acheté mon propre coffret. J'ai rencontré l'équipe du tournage. En fait, ce qui m'a tout de suite plu, c'est que j'ai eu un coup de cœur pour l'intelligence et la sensibilité de l'écriture de Simon Astier. Je trouvais ça nouveau, frais, imaginatif et ambitieux. Un gros coup de plumeau dans la fiction d'aventure fantastique. Et le paysage audiovisuel français avait un gros besoin dans ses programmes. Et les programmes comme la série HeroCorp ou Le Visiteur du Futur de François Descraques font partie de ces nouveaux programmes et de ces nouvelles écritures qui ont changé la donne. Mais ce que j'apprécie plus dans cette série, c'est la proximité avec l'équipe de la série HeroCorp. Ils sont toujours disponibles et depuis quelques temps, avec la renaissance de la série, il y a pas mal d'événements organisés pour les spectateurs, les anciens et les nouveaux, ceux qui ont découvert la série cette année. La communauté aussi, qui est formée par les fans, elle est extraordinaire. C'est la première fois que je vois une communauté de fans aussi soudée. On se rencontre même entre nous, en dehors des événements HeroCorp, et on communique pas mal sur les réseaux sociaux.
Une dernière question. Si tu devais être un super-héros ou une super-héroïne, quel serait ton super-pouvoir ?
Une fois, j'ai rêvé d'une super-héroïne qui se nommait Plexigirl. Elle génère des plaques de plexiglas sur le coup d'une émotion. Les gens se cognaient dans ces plaques. Je trouvais ça fou, je me suis réveillée avec un énorme fou rire. Et c'est complètement faux, mais je pense que ça correspond à l'idée que je me fais d'un super-héros de l'agence d'Europe.
Merci beaucoup, Marie. Est-ce que, avant de se quitter, tu peux nous faire un petit pinage ?
Pinage !
Un grand merci à Marie, ou Plexigirl pour les intimes. Vous êtes toujours sur Radio Saint-Afrique pour une heure fantastique dédiée aux super-héros. Et voici venu le temps de notre rubrique consacrée au cinéma pour jouvencelles, aux navets manichéens et bien-pensants, aux accents patriotiques douteux, le film de Pucelle.
C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle ?
Ouais, pourquoi ?
Vous avez plus pris de la pucelle.
Soyons honnêtes, les films et séries de Pucelle sur les super-héros ne manquent pas. Je ne dirais pas qu'il n'y en a autant que sur les vampires, mais quand même, j'avais l'embarras du choix. Alors j'ai décidé de parler d'une série de Pucelle qui partait du même principe que les œuvres précédemment évoquées, des super-héros inattendus. Le tout avec un budget sûrement 10 fois supérieur à celui de HeroCorp et un talent indubitablement inférieur à celui de Simon Astier. Il s'agit de Super-héros Family.
Nous étions une famille ordinaire jusqu'à...
Quelque chose d'extraordinaire s'est produit.
Bon, alors, tu fais des bonds de 400 mètres, tu soulèves 5 tonnes...
Je suis rapide. J'entends ce que pensent les gens.
J'ai un super cerveau.
Nous ne sommes plus une famille ordinaire.
Si on veut avoir l'air d'une famille normale, on doit agir comme telle.
Bon, voilà, l'histoire est racontée. Les films et séries de Pucelle se reconnaissent au fait que les costumiers et maquilleurs y ont plus de boulot que les scénaristes. Alors pourquoi Super Hero Family est-elle une série de Pucelle ? D'abord parce que les personnages y sont tellement caricaturaux qu'ils pourraient être remplacés par des marionnettes dans un théâtre de guignols.
Il y a la maman hyperactive, tellement investie dans son boulot qu'elle manque de temps pour sa famille. Le papa un peu artiste, qui aimerait un peu plus de reconnaissance. La fille, une ado sensible et un peu timide. Et le fils, complexé par ses difficultés scolaires. Évidemment, leurs pouvoirs vont arranger tout ça. Et on n'oublie pas les clichés au passage, l'assistante de la mère, une geek névrosée encore vierge à 25 ans. Deuxième élément essentiel pour toute série de pucelles, le manichéisme. En plus d'être caricaturaux, les personnages n'ont évidemment aucune ambivalence. Les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. Ah non, j'oubliais le vilain Tom de main, qui finit par tomber amoureux de la jolie assistante. Il n'est pas si vilain en fait. Bon, d'accord, il tue des gens. Mais après avoir dépucelé la petite assistante, il devient gentil et refuse d'exécuter les ordres cruels de son patron. Ah, l'amour. Il vous en faut plus ? Bon, alors si vous insistez, il y a la morale à deux balles dont certaines séries américaines se sont faites une spécialité. Ce qui nous donne un petit peu une version SF de 7 à la maison. Pour conclure, comme à chaque film ou série de pucelles, je ne dis pas qu'il ne faut pas le voir. Mais de là à acheter le DVD, faut pas exagérer. Et surtout, on ne confond pas les torchons et les serviettes, s'il vous plaît. Le film ou la série de pucelles est un divertissement gentillé, pas une œuvre d'art. Et s'il fait passer le temps, nous fait parfois rire, il fait beaucoup de tort, à mon sens, à l'univers de la science-fiction, que les non-connaisseurs vont maladroitement assimiler à un sous-genre pour ados et illettrés, ce qui explique que rares soient les films de SF à recevoir des prix et que je doive régulièrement me rendre dans le rayon jeunesse d'une librairie pour acheter du Asimov ou du Matheson. Et ça, ça m'énerve. Allez, il est temps de passer à notre dernière rubrique, celle des conseils, des trucs et astuces. Dans cette rubrique, d'habitude, je conseille l'auditeur aventureux qui souhaite voyager dans le temps, devrait affronter des zombies ou voudrait échapper à la matrice. Aujourd'hui, la question que vous vous posez tous, c'est comment devient-on un super-héros ? Pour y répondre, j'ai décidé de laisser la place aux pros.
Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui un véritable super-héros qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Stan, bienvenue dans l'heure fantastique. Alors vous êtes un super-héros. Peut-être pouvez-vous en dire un peu plus aux auditeurs sur vos super-pouvoirs notamment ?
Bien sûr, alors déjà je suis ravi d'être parmi vous. Et ensuite, j'ai des super-pouvoirs assez hallucinants puisque j'ai le pouvoir de persuasion sur tous mes adversaires, même pas que mes adversaires d'ailleurs. Alors au départ, c'est dans la mesure où ils sont d'accord. Mais en fait, ça s'arrange un peu dans la troisième saison. C'est dans la mesure où j'arrive à leur imposer un univers dans lequel ils finissent par se croire être dedans. Enfin, ça veut rien dire cette phrase, mais je me comprends. Mais avec mon pouvoir de persuasion, tout le monde a compris aussi.
Merci de cette petite présentation, même si je pense beaucoup de nos auditeurs vous connaissent déjà de réputation. Parmi ceux qui nous écoutent justement, il y a de nombreux lycéens et étudiants qui réfléchissent à leur orientation, des moins jeunes également qui pensent à une possible reconversion professionnelle. Certains se disent, pourquoi pas super-héros ? Ils sont souvent influencés par les films, séries et bandes dessinées dont ils sont fans et se font parfois une image fausse de la profession. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en quoi ça consiste exactement le métier de super-héros ?
En fait, déjà, je ne le conseillerais à personne, parce que c'est vraiment dur. Ça ne se passe jamais vraiment comme on veut. On est toujours confronté à des génies du mal, et ils sont vraiment pénibles. C'est vraiment un univers de travail dans lequel il n'y a pas une bonne ambiance, quoi. Vraiment, aux jeunes, je conseillerais de chercher vraiment une autre voie, parce que déjà, c'est facile de faire sa place dans ce métier-là. Et en plus, vraiment, je vous le dis, on est confronté à des gens pas très sympathiques, avec des projets ambitieux, mais vraiment, vraiment dégueulasses, du type, je vais noyer, je fait noyer toute ta famille. Enfin, des trucs vraiment qui sont pas agréables au quotidien, en fait.
Donc, c'est pas un métier que vous conseilleriez ?
Ah non. Non, non, c'est trop dur. On galère. Puis, on est toujours dans des situations pas possibles. On dort dans des cabanes. On a froid, on a faim. C'est... Voilà, après, moi, je le fais avec bonheur et plaisir. Puis, de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est une condition. On est comme... on est super-héros. On ne devient pas super-héros. Ou alors, c'est rare.
Et pour ceux qui auraient quand même cette motivation, cette vocation de devenir un super-héros, est-ce que vous pouvez leur conseiller peut-être certaines études, un parcours, une filière qui pourrait leur permettre d'arriver à cette carrière ?
Bah ouais, je pense qu'il faut faire psycho, pour psychologie, pour un peu essayer de comprendre et rentrer dans la tête des super-vilains.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les qualités qu'il faudrait avoir pour exercer ce métier ?
Oui, je peux vous le dire, en fait, ce sont des qualités, il faut être facile à vivre. Bien que ce soit pas le cas de tout le monde dans notre confrérie, mais faut être facile à vivre, faut pas être trop tourné sur soi, parce que c'est pénible aussi, ça. Et puis surtout, ça n'apporte rien dans la vie de super-héros, donc c'est pas une qualité, hein, ce que je vous dis, c'est un défaut. Donc, comme qualité, faut être facile à vivre, ça, je l'ai déjà dit. Faut être capable de pas manger pendant quelques jours, avoir envie de faire le bien, et ça, c'est pas toujours facile à jauger. Est-ce que c'est ça qui va vers le bien ou pas ? C'est pas toujours facile. Quelle autre qualité ? Savoir faire la bouffe, non, pas spécialement. Faut pas être pénible en voyage. Faut pas avoir besoin de grand-chose aussi. Faut pouvoir se débrouiller avec un caillou et un parpaing et un bout de bois. Bon, c'est pas mal déjà comme qualité.
Et quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer dans le métier de super-héros ?
Bah, garde le cap et du courage. Tu seras jamais arrivé, mais tu seras toujours parti. Donc il faut savoir aussi mettre sa vie affective de côté. Il faut vraiment du courage, c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est ce que je disais tout à l'heure. On s'en fait une image formidable et tout ça, en fait, c'est vraiment pénible. C'est une vie dure, quoi. Donc les conseils que je donnerais, c'est aie beaucoup de courage. Fais attention, parce que si tu veux une vie de famille, bah, tu vas te la mettre sur l'oreille, je pense. Et tu risques vraiment de briser ton couple, si tu es en couple. Donc il faut être fort à ce niveau-là, ou alors peut-être épouser une super-héros, et ça c'est compliqué à trouver, je crois, par les temps qui courent.
Alors là, vous brossez quand même un portrait assez noir de la profession. Est-ce qu'il n'y a pas des bons côtés quand même au métier de super-héros ?
Bah, il y a le côté un peu gratifiant. C'est-à-dire que quand ça marche, quand on fait une bonne chose, une bonne action, quand on se tire des pattes d'un super-vilain, c'est vrai qu'on a presque un peu envie de fêter ça. Il y a quand même des petites victoires au quotidien, et ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai. Si, si, bah oui, mais sinon, tout le monde, on arrêterait de le faire. Hein. On ferait semblant de ne pas avoir de super pouvoir et on se mettrait dans la vie. Non, non, il y a vraiment des... Oui, effectivement, il y a des moments très, très plaisants, mais c'est surtout sur les petites victoires au quotidien ou sur les grosses victoires. Et puis, l'amitié est forte. On se retrouve dans des groupes très, très soudés, finalement. Et ça, c'est le petit côté plus. Oui, effectivement, c'est sûr que j'ai peur que nos auditeurs se disent « Oh là là, ça a l'air déprimant ». Non, non. Ça n'est pas déprimant, ça n'est pas que déprimant, quoi.
Vous nous rassurez. Merci beaucoup pour ces précieux conseils qui, je suis sûre, lanceront des carrières. Une dernière chose avant de nous dire au revoir. Un petit pinage, s'il vous plaît.
Ah, un petit pinage. Un petit, alors. Ouais, parce que là, en appartement et tout, on va dire un tout petit pinage, pas très convaincu. Pinage.
Vous avez pris des notes ? Tant mieux, mais ne rangez pas vos stylos, parce que c'est pas fini ! Jean-Michel et Doug, bienvenue dans l'heure fantastique. Alors, vous êtes des super-héros. Peut-être pouvez-vous en dire un peu plus aux auditeurs sur vos super-pouvoirs ?
À la radio, c'est pas évident.
Parce qu'on peut pas faire une démo.
On peut vous montrer. Regardez. Alors. Je fais un truc, bougez pas.
Alors.
Voilà. Est-ce que vous avez vu ? Voilà, en fait, on a un traitement. En fait, on suit un traitement médical pour pas trop que ça se développe. Parce que pour des raisons de tournage, on est obligé d'avoir des super-pouvoirs qui soient pas trop, trop efficaces. Donc, on est sous traitement. Parce que si on n'était pas sous traitement, ça exploserait, surtout au printemps.
Et en fait, voilà. Vos super-pouvoirs, ils consistent en quoi exactement ?
Moi, ça, je... Oui, en fait, c'est quoi mon pouvoir? J'ai oublié.
Toi, c'est de perturber un petit peu les
gens. Ah oui, c'est vrai, voilà. J'assomme les gens, en fait, en leur parlant, parce qu'ils comprennent pas ce que je leur dis, donc déjà, je les assomme une première fois. Et lorsqu'ils sont bien interloqués, ils se reçoivent un ballon de hand, qui vient de je ne sais où, mais qui les percute à la tête, et ils sont assommés, donc ils baissent leur garde, et ils sont vulnérables.
Il peut pas dire d'où viennent les ballons de hand, parce que c'est son secret. Après, voilà. C'est vraiment l'interloquage... C'est vraiment son secret.
L'interlocution.
Quoi. L'interlocution.
Voilà. Mon pouvoir, c'est le pouvoir d'interlocution.
Et donc ?
J'ai vu quand même la subtilité. Il les assomme d'abord intellectuellement avec une langue étrangère et
après physiquement.
C'est quand même classe.
Parce que l'inverse, ça serait compliqué, tu vois. Si ils sont déjà assommés, après, je ne peux plus leur parler. Donc, je suis obligé de leur parler avant de les taper. Voilà.
Et
voilà, comme
donc...
moi j'ai un pouvoir qui est en mutation, en fait. J'ai des petits problèmes de santé en ce moment. C'est-à-dire qu'à la fois, je détecte les mensonges. Et mon corps...
Et t'as pris un peu trop de Viagra aussi.
Du coup, voilà.
ça se répand sur tout le corps.
C'est-à-dire que mon corps devient dur comme une planche de chêne. Et en ce moment, j'ai la peau qui mute. J'ai un petit problème. J'ai le cuir qui durcit très fortement. Et plus du tout en rapport avec les mensonges. J'ai un double pouvoir qui se développe, quoi. Voilà. Mais c'est un peu intime, c'est le secret médical. On n'a pas le droit de violer. On n'a pas le droit de violer le secret
médical. Ça reste c'est pas censé être diffusé, hein.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste exactement le métier de super-héros ?
Alors, moi là-dessus, on a un cursus un peu particulier parce qu'on est passé par une agence gouvernementale quand on était à Aérocorp, quand Aérocorp était encore... vous savez, il y a eu des petits problèmes de direction à la tête de notre entreprise. Mais suite à la Grande Guerre de 84, il y a eu une nationalisation, une fonctionnalisation du secteur des super-héros. Et donc, nous étions dans une agence. Alors, Jean-Michel Nguy était dans une agence à l'étranger.
Une agence japonaise.
Voilà. Moi, j'étais dans une agence...
Je ne connais pas les droits français. Je ne sais pas comment ça se passe.
Ouais, il était à Sapporo, à Hokkaido, alors que moi, j'étais au Québec avant d'être recyclé à l'étranger. Enfin, bon, voilà, c'est un parcours personnel qui regarde que moi et la société Aérocorp. Mais en tout cas, voilà. Donc, nous étions fonctionnaires. On était quand même dans un cursus assez confortable. Je pense que super-héros en Europe, c'est plus compliqué parce que les débouchés sont moindres. Et puis en ce moment, il y a beaucoup de films qui, je sais pas, ils valorisent pas tous notre profession. Il y a des choses assez fausses qui ont été dites.
Mais ça, c'est le problème de l'Europe.
Ouais, et puis il y a 2-3 frimeurs comme Superman, des gens comme ça qui friment un peu et qui donnent un peu une image un peu paillette de notre métier qui est beaucoup plus artisanal et beaucoup plus rude au quotidien, quoi.
Alors, on est plutôt sobre et réservé et puis on reste un petit peu dans l'ombre.
Mais alors donc, les filières en Europe, c'est vraiment de l'artisanat. Je pense que c'est moins, c'est plus difficile de rentrer dans une agence nationale comme nous quand on est en France. Quand je sais plus dire. Mais il faut persévérer, je pense que c'est une histoire de vocation, il faut y croire. Quoi.
Oui, avant tout, c'est une vocation, parce que je pense que n'importe quelle formation ne fera pas forcément des bons super-héros.
Sur le terrain, quoi.
Sur le terrain, voilà, il faut essayer, il faut se lancer, et puis la passion emporte.
Oui, je voulais dire, il faut rendre hommage aux super-vilains, quand même, parce que c'est un peu grâce à eux que...
Que les super gentils sont
voilà.
Et est-ce que vous avez fait des études particulières, des expériences qui vous ont permis d'arriver justement à la carrière qui est la vôtre?
Moi j'ai une maîtrise en vietnamien, ça aide. Voilà, donc mon super pouvoir vient quand même pas mal de là. Donc,
tu avais fait la langue. Sport-études, hein, t'avais fait non avec
Oui, j'ai fait du handball, bien sûr, en sport-études, mais c'est surtout le vietnamien qui me permet de avec mes tournures de phrases.
Ouais.
De surprendre les gens. Donc je pourrais conseiller aux jeunes d'apprendre le vietnamien. En plus, ça, c'est bien parce que tu peux
voyager.
Tu peux voyager, mais tu peux sortir avec des filles aussi, parce que si elles ne veulent pas, tu les interloques. Tu leur parles en vietnamien.
Ouais, là tu risques, c'est vrai.
Donc faites du vietnamien.
Voilà. Mais moi j'ai fait des études de droit. C'est tout ça pour dire qu'on peut être détecté, quelles que soient les études, hein, on pouvait être détecté.
C'est pour ça que t'es droit.
Droit comme AI.
Donc il n'y a pas une formation spécifique pour devenir super-héros en fait.
Ben non, chaque super-héros est unique et différent. Donc chacun a sa filière, chacun a son parcours et c'est ça qui fait son originalité.
Ouais, il y a eu une école de super-héros, mais c'est compliqué. C'est vraiment c'est compliqué. Après, ce sont des formations internes, il y a des stages de perfectionnement, mais ça c'est vraiment interne, on peut pas en parler.
Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer dans le métier de super-héros ?
Ben, qu'il y aille, qu'il fonce et qu'il croit en ses capacités, qu'il se fasse confiance jusqu'au bout et qu'il se jette à l'eau. Et puis voilà, c'est qu'il le fasse avec cœur et détermination.
Et surtout, il faut beaucoup de premier degré. Il ne faut pas de second degré, il ne faut pas de cynisme, il faut l'humour. Hein. c'est un frein, je trouve, dans ce métier. Il faut vraiment y croire à fond, mais il faut pas perdre temps. Chaque seconde compte et il faut se donner à fond, comme dit Jean-Michel.
Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Une dernière chose, avant de nous dire au revoir, un petit pinage, s'il vous plaît.
On va peut-être demander à des amis à nous aussi de faire pinage. Ouais. Ah, on est avec des amis.
Attendez, on va demander à nous.
On est avec des amis et on va tous gueuler pinage en même temps.
Parce que nous, on a des amis qui comprennent pas tout. Hein, même.
Ouais, en fait, c'est des apprentis super-héros et il faut qu'on leur apprenne le code. Alors, 1, 2, 3.
Pinage!
Et si on rajoutait un petit conseil de Captain Sport Extrême là-dessus ?
Le premier conseil que je donne à un apprenti super-héros, c'est de faire attention à son corps et d'être à l'écoute de son corps. Parce que y a des petites connasses qui pensent que le corps, c'est pas important. Et moi, je leur réponds que le corps, c'est important pour connaître les sensations de la Terre, parce que je crois qu'il faut qu'on vive les sensations de la Terre et qu'on les ressente à travers le corps. Alors moi, j'ai plus de ménisque, alors c'est pénible, mais du coup, si j'avais été plus à l'écoute de mon corps, j'aurais été plus en accord avec la nature. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut respecter la nature. C'est le message que je voudrais délivrer à tous les super-héros apprentis.
Compris, mais c'est toujours pas fini. J'ai aussi été poser la question au big boss de HeroCorp, John, alias Bouclierman.
On n'a pas le choix. Quand on est un super-héros, on est un super-héros. C'est un peu le problème du truc, c'est que ça vous arrive sur la tronche, et après, il faut gérer, quoi. Bon, le problème, c'est que c'est quand même vachement injuste comme principe. C'est que vous pouvez devenir un super-héros, mais c'est les parents. C'est les parents, ça se transmet. Mais si vous êtes un super-héros, je sais pas, il faut être résistant. Il faut en vouloir, ne pas craindre la douleur et ne rien craindre du tout. Mais je pense qu'on ne peut pas devenir un super-héros, on est un super-héros.
Bon, vous l'avez compris, si vous n'avez pas de super-pouvoir, ça va être chaud. Difficile autrement de devenir un super-héros. Et de toutes les façons, ce n'est pas un métier facile, nos pros du jour nous l'ont bien fait comprendre. Alors si la génétique n'est pas de votre côté et que vous n'avez pas hérité de vos parents un pouvoir extraordinaire, ou bien si les responsabilités du super-héros vous effraient, il reste encore une solution, devenir un super-vilain. Du coup, j'ai été demander à Claudine ce qui était le mieux selon elle, être un super-héros ou un super-vilain.
Bon, moi, j'apprécie pour ma paroisse, je vais dire une super-vilaine, c'est mieux. On est plus chouette, je pense qu'on a plus de plaisir entre nous et puis oui, on peut se défouler, c'est bien, ouais.
Et voilà, il fallait bien en arriver là. Cette émission touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, je voudrais remercier les acteurs d'HeroCorp qui se sont prêtés au jeu d'une interview décalée avec beaucoup d'humour et de sympathie. Un grand merci donc à Patrick Vaux, Sébastien Lalanne, Arnaud Joyer, Simon Astier, Jenny Anne Walker et Arnaud de sa mère. Je voudrais également remercier Marie qui a bien voulu répondre à mes questions pour l'interview du fan. Je veux aussi dire merci à Radio Saint-Afrique, ses salariés et ses bénévoles. Et puis merci à vous, les auditeurs, qui m'avait accompagné le temps d'une heure fantastique. Oui, je sais, ça fait un peu remise d'Oscar comme discours, mais il fallait bien ça pour clôturer cette saison 2. Je vous abandonne le temps d'un été, mais ne vous inquiétez pas, l'heure fantastique revient en octobre pour une saison 3 qui débutera sur le thème de l'héroïque fantasy. En attendant, vous avez toujours les podcasts des émissions précédentes pour patienter, mais n'oubliez pas d'être prudent, car vous le savez bien, ils sont parmi nous.